vous accompagne.
Merci Edouard, et à tout à l'heure, RFI Matin. Prochain journal dans 20 minutes à la une. Gaza sous les bombes, la situation de plus en plus critique dans l'enclave palestinienne. On va aussi parler de la Syrie dans le journal après la chute de Bachar al-Assad, sujet également au cœur d'un entretien à suivre dans 5 minutes. Christophe Boisbouvier interroge Wolfram Lacher, grand spécialiste de la Libye. Il nous en dira plus sur les conséquences de la situation en Syrie pour Tripoli. Mais d'abord le sport. Avec Victor Misistrano ce matin. Bonjour Victor.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Et on commence par cette question. Qui va remporter le titre de footballeur africain de l'année? Réponse ce soir.
Marrakech accueille la cérémonie des CAF Awards 2024. Les deux lauréats seront inédits. La Nigériane Azizat Oshoala ne remportera pas de quatrième couronne consécutive. Les trois nommés sont la Zambienne Barbara Benda, la Marocaine Sanam Soudi et la gardienne du Nigeria Chiamaka Nnadozie. Vainqueur inédit également chez les hommes, ils sont encore 5 en course pour succéder à la star des Super Eagles, Victor Osimhen, Eric Mamrut.
Deux favoris se détachent pour succéder au palmarès à Victor Osimhen. Un autre Nigérian, tout d'abord Ademola Lookman. L'attaquant de poche est montré convaincant, que ce soit en sélection avec 3 buts inscrits lors de la dernière CAN et une place de finaliste, comme en club avec l'Atalanta Bergame, le club italien avec lequel il a marqué une vingtaine de buts cette année, notamment cet incroyable triplé lors de la finale de la Ligue Europa remporté face au Bayer Leverkusen. L'autre favori également a foulé les compteurs cette année. Serhou Guirassy en a inscrit 28 avec Stuttgart pour terminer deuxième de la Bundesliga et deuxième au classement des buteurs derrière Harry Kane. L'attaquant guinéen également décisif avec son nouveau club de Dortmund mais aussi avec le Sili National, même s'il n'a pu lui offrir la qualification pour la CAN 2025. Simon Adingra a lui remporté la dernière chez lui en Côte d'Ivoire, délivrant notamment 2 passes décisives lors de la finale face au Nigeria. Pas sûr que cela suffise à décrocher le Graal ce soir, surtout au regard de sa saison plutôt moyenne avec Brighton. Les deux autres finalistes paraissent encore plus en retrait. Le défenseur Achraf Hakimi, pièce maîtresse du Paris Saint-Germain, auteur du doublé coupe championnat de France, mais bredouille cette année avec le Maroc. Et enfin Ronwen Williams, le gardien des Mamelodi Sundowns, dont le seul fait d'arme est d'avoir emmené quasiment à lui tout seul l'Afrique du Sud en demi-finale de la CAN 2024.
Les précisions d'Eric Mamrut, début de cette cérémonie à 18h, temps universel.
Et Juan Gomez attend vos pronostics dans Appel sur l'actualité, rendez-vous tout à l'heure à 9h10, heure de Paris. Toujours en football, c'est un week-end de Coupe d'Afrique de club qui s'est achevé hier.
Et on vient d'en parler, le gardien Ronwen Williams jouait avec les Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions. Contrat rempli, il n'a pas encaissé de but et les Sud-Africains ont disposé du Raja Casablanca. 1-0, il double les Congolais de Maniema pour revenir à hauteur de l'AS FAR de Rabat en tête de ce groupe B. De son côté, le Djoliba de Bamako boucle cette phase aller sans le moindre succès. Andréane, pas de but dans le duel des mal classés face aux Angolais de Sagrada, 0-0.
On est aussi à mi-parcours à l'échelon inférieur, la Coupe de la Confédération. Une seule équipe a signé un sans faute.
Troisième victoire en 3 matchs pour la RS Berkane face au Stade Malien. L'international burkinabé Issoufou Dayo a permis au club marocain de s'imposer 1-0. Dans le groupe C, l'USM Alger prend le large grâce à son succès sur l'ASEC Mimosa 3-0, le club ivoirien qui concède une première défaite dans cette C2. Il reste deuxième de son groupe car derrière, les Sénégalais de Jaraf et les Botswanais d'Orapa United n'ont pas réussi à se départager 0-0.
Et puis en basket, Victor, la Ligue africaine féminine de basket a rendu son verdict hier à Dakar.
Troisième titre continental pour le Ferroviaro Maputo, les Mozambicaines qui ont battu les Égyptiennes d'Al Ahly en finale 81-72. Enfin, aux États-Unis, en NBA, Pascal Siakam a remporté son duel face à son jeune compatriote Yves Missi. Les deux Camerounais étaient titulaires. Succès d'Indiana devant la Nouvelle-Orléans 119-104. Auteur de 22 points, Siakam a terminé meilleur marqueur de la rencontre.
Merci Victor Misistrano et à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a rencontré hier le chef du HTS, le Hayat Tahrir al-Sham, les islamistes qui mènent les rebelles désormais au pouvoir à Damas et qui ont chassé Bachar al-Assad du pouvoir, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Après Washington, samedi, le Royaume-Uni a annoncé hier avoir établi des contacts diplomatiques avec le HTS. Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, il est passé sur l'île samedi. Les autorités redoutent depuis des centaines, voire des milliers de morts. Les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet sont attendus en fin de matinée sur place. Aujourd'hui et demain en France, le nouveau Premier ministre François Bayrou va multiplier les consultations avec les partis politiques pour tenter de former son gouvernement. Première rencontre ce matin avec les représentants de l'extrême droite du Rassemblement National. La France où le verdict du vaste procès de Mazan est attendu cette semaine. Aujourd'hui, lundi, les 51 co-accusés de cette affaire ont une dernière chance de s'exprimer avant que la cour criminelle ne se retire pour délibérer. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui l'annonce. Des frappes israéliennes ont visé la nuit dernière des sites militaires situés dans la région syrienne de Tartous. C'est là que se trouve l'une des bases russes en Syrie, des sites cruciaux pour les opérations que mène Moscou en Afrique, mais dont l'avenir pose question depuis la chute de Bachar al-Assad. Alors si la Russie doit déplacer ses bases, où va-t-elle aller? La Libye du maréchal Haftar pourrait être un point de repli. Christophe Boisbouvier interroge ce matin à ce propos Wolfram Lachet, grand spécialiste de la Libye, également chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. Il est en ligne de Berlin.
Wolfram Lachère, bonjour.
Bonjour.
Si les Russes perdent leur point d'appui en Syrie, est-ce qu'ils ne vont pas se tourner encore plus vers la Libye du maréchal Haftar?
Ils vont sans doute l'essayer, mais est-ce qu'ils vont le pouvoir? Est-ce que Haftar permettra aux Russes de renforcer leur présence en Libye? C'est une question parce que on voit à travers les années dernières que Haftar a toujours cherché à jongler entre plusieurs partenaires étrangers et de ne jamais se rendre dépendant exclusivement d'un État.
Dans le territoire libyen contrôlé par le maréchal Haftar, les Russes auraient des facilités sur 4 bases aériennes, Al-Qadir, Al-Joufra, Gardabiya et Brak al-Shati. Mais est-ce que les avions gros porteurs russes peuvent atteindre la Libye sans faire escale sur la route pour faire le plein?
Cela dépend sans doute des espaces aériens qu'ils peuvent traverser. Or, on a constaté cette dernière année qu'ils peuvent traverser l'espace aérien turc, par exemple. Mais c'est très possible si la Russie perdait la base aérienne en Syrie, que ça compliquerait la logistique, le ravitaillement pour la présence russe en Libye et plus au sud en Afrique.
Du côté des navires de combat maintenant, si les Russes perdent leur base navale de Tartous en Syrie, est-ce qu'ils pourront replier leurs bateaux dans un port libyen?
Alors, les Russes cherchent depuis plusieurs années déjà d'établir une base navale à l'est de la Libye. Pour l'instant, Haftar et ses fils n'ont jamais accédé à ces requêtes parce qu'ils savent que cela pourrait rompre leur relation avec les puissances occidentales. Or, la situation actuelle où et la Russie et les États-Unis et d'autres pays de la région, donc les Émirats, les Égyptiens, tout le monde essaye de maintenir des bonnes relations avec Haftar. C'est une situation très confortable pour Haftar. Et donc, je pense que pour Haftar, il n'y aurait aucune nécessité de maintenant offrir le territoire libyen aux Russes et de se rendre dépendant de manière exclusive du soutien russe et de couper ses relations avec les pays occidentaux.
Alors apparemment, le maréchal Haftar et Vladimir Poutine s'entendent bien. Ils se sont vus à Moscou en septembre dernier. Mais est-ce que le maréchal libyen est un allié aussi fiable que l'était le dictateur syrien Bachar el-Assad?
Il n'est peut-être pas fiable dans le sens où il suit les directions qu'on essaierait de lui donner. Mais Haftar a besoin de cette présence militaire russe parce que la fonction de protection contre d'éventuelles attaques, d'éventuelles offensives de la part des forces tripolitaines, cette fonction de protection que a la présence militaire russe, c'est difficile de voir une autre puissance étrangère la remplacer pour Haftar. Donc c'est pour ça que la relation entre Haftar et la Russie est une relation qui est bénéfique mutuellement. Les deux ont besoin de maintenir cette relation.
Depuis 6 mois, le maréchal Haftar, qui est âgé de 81 ans, prépare sa succession. Il met en avant l'un de ses fils, Saddam. En juin dernier, quand Saddam Haftar est allé à N'Djamena, le président tchadien lui a demandé de mettre sous cloche les rebelles tchadiens du FACT, dont la dernière offensive en 2021 avait coûté la vie à Idriss Déby. Est-ce que vous pensez que le clan Haftar a donné suite à la requête du régime tchadien?
Oui, effectivement. Depuis environ 2 ans, il y a une coopération assez étroite. Il y a eu des arrestations de chefs rebelles, y compris au sein du FACT, qui ont été livrée au régime tchadien. Et d'après ma connaissance, le FACT n'a plus de présence en tant que force en territoire libyen à ce moment-là.
Et le FACT aujourd'hui n'est plus en mesure de lancer une nouvelle offensive comme en avril 2021 ?
Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de force rebelle tchadien en territoire libyen qui soit en mesure de lancer une offensive semblable. Par contre, il faudra voir si, avec le fait que la France retire ses forces du Tchad, si ce n'est pas un facteur qui pourrait conduire à une nouvelle mobilisation de rebelles tchadiens qui pourraient donc organiser de nouveaux groupes, que ce soit au Darfour ou ailleurs dans les pays avoisinants du Tchad.
Wolfram Lascher, merci.
Le chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, Wolfram Lascher, entretien avec Christophe Boisbouvier, retrouvé sur le www.rfi.fr. Votre chronique matière première sur RFI, et ce matin on parle du cuir de moins en moins utilisé, tout secteur confondu, donc habillement, chaussures ou encore automobile. C'est une tendance mondiale, et quand en plus la demande ralentit en Chine, l'acheteur numéro 1 de cuir, ça devient très difficile pour la filière et en particulier pour le premier exportateur européen de cuir et de peau brute, la France. Marie-Pierre Olfan.
Il y a d'abord une tendance de fond, celle des constructeurs automobiles, par exemple, qui questionnent l'utilisation du cuir dans leurs véhicules au profit de matériaux moins coûteux. L'intention a été affichée par plusieurs industriels, même si elle peine encore à se concrétiser. Il y a aussi les effets conjoncturels liés à la situation économique et géopolitique actuelle qui rendent les investissements plus rares. Et puis, il y a la Chine, le vrai sujet aujourd'hui, selon l'Alliance France Cuir, car la demande chinoise est cruciale dans ce secteur comme tant d'autres. Les exportations françaises de cuir et de peau brute vers la Chine ont augmenté de 8% cette année, mais les exportations de cuir fini vers l'Empire du Milieu, elles, se sont effondrées de 31%. La Chine achète toujours de la matière brute qu'elle peut travailler dans ses tanneries, aussi bien pour le marché du luxe à l'échelle locale que pour le milieu et le bas de gamme à l'international. Les cuirs finis haut de gamme déjà valorisés en Europe, eux, ont plus de mal à s'y vendre. Face à ce ralentissement du marché, les entreprises des pays exportateurs sont contraintes de s'adapter. L'affaiblissement de la demande internationale a ainsi fait reculer en moyenne de 4% l'activité de la tannerie Mégisserie en France. Les difficultés du marché se répercutent aussi sur les prix du cuir et des peaux brutes qui ont baissé en moyenne de 40% depuis 2018. Des prix qui semblent pour l'instant ne pas être affectés par la baisse du cheptel européen. Une baisse qui réduit le volume de cuir et de peau disponible d'année en année, puisque la filière tire sa matière première uniquement d'animaux élevés au départ pour leur viande et pour leur lait.
Marie-Pierre Olfan. C'était le 17 août dernier, l'Indonésie et ses 270 millions d'habitants ont fêté le jour de l'indépendance de la nation, une célébration dans des conditions particulières cette année, puisque le chef de l'État, Joko Widodo, a tenu à commémorer cette fête d'indépendance à Nusantara, la nouvelle capitale administrative de l'Indonésie. La construction de la ville, qu'on appelle aussi IKN, a débuté sur l'île de Bornéo courant 2022. L'idée, c'était de bâtir une nouvelle capitale verte avec un objectif zéro émission, et cela en opposition à Jakarta, située sur l'île de Java. Oui, mais voilà, ce gigantesque projet de nouvelle capitale verte fait débat auprès des ONG environnementales et de certains locaux. La construction de la future capitale indonésienne, un projet sous haute tension, c'est un grand reportage de Juliette Pietraszewski. En voici un extrait.
À l'intérieur des terres, d'autres locaux subissent les conséquences de la construction de la nouvelle capitale indonésienne. Certains ont même vu un barrage s'établir à proximité de leur maison. Ils ont accepté de témoigner anonymement.
Donc, on est arrivé dans la pièce principale des villageois qui ont accepté de me recevoir. Ils vont répondre à mes questions sur la situation avec IKN. Il y a des photos de remise de diplôme, il y a des photos de famille, un calendrier, des outils, une grosse pendule au fond.
The dam, is it already... Le barrage a des conséquences déjà?
In this village?
Close here. Le barrage près de chez nous fait partie du projet de construction de la nouvelle capitale, IKN. Selon moi, le barrage a été construit pour Nusantara. Ce n'est pas un projet pour le peuple. Et son existence a des conséquences sur la production des fermiers, du village ici, notamment en termes d'eau fraîche. On utilise l'eau des rivières, ça fait partie de notre culture, on est dépendant. Mais avec le barrage, l'eau est bloquée.
Donc c'est effectivement une pétition, ce qu'il me montre, et c'est signé par les grands chefs de village. Chaque chef représente à peu près 100 personnes.
Vous avez donné ça au gouvernement, mais qu'a-t-il dit ?
On a transmis le document aux autorités, mais on n'a eu aucune réponse.
Ça a été signé le 28 février 2021. Et ils n'ont toujours pas de réponse.
L'autorité d'IKN, après avoir protesté, nous a dit que notre zone d'habitation allait devenir un domaine touristique pour les autochtones. Une zone touristique où les gens pourraient venir voir comment les indigènes font leur vie. Mais on ne veut pas de zone touristique, on veut une zone pour les autochtones.
Ce grand reportage de Juliette Pietraszewski, une rediffusion aujourd'hui à écouter en intégralité à 12h10, c'est 20h40, heure de Paris, et à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Dans une minute, le journal sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La Confédération africaine de football décerne ce lundi son ballon d'or. Le Nigérian Lookman par grand favori devant le Guinéen Guirassy, l'Ivoirien Adingra, le Marocain Hakimi et le Sud-Africain Williams. J'attends vos pronostics.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
cuisiner en Afrique avec Chef Anto, produits phares, savoir-faire et recettes à partager.
Demain,
intelligence artificielle et surveillance policière. Faut-il être contrôlé pour vivre en sécurité ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.